à comprendre comme une sorte de stratégie vitale. Je ne veux pas développer, mais enfin...
Une stratégie c'est vitale.
C'est-à-dire que, d'une certaine façon, tu as besoin de penser que tout a commencé à l'école.
Ah oui. Oui, parce que en dehors de l'école, dans la maison, on est noyé. On est noyé à la maison, dans ce traumatisme, dans cette nécessité. Il faut vivre, il faut vivre. Alors qu'à l'école, on te dit, il faut penser, il faut aimer la nature. On ne te dit pas, il faut vivre, parce que la vie, ça va de soi.
Mais ce que vous dites, vous êtes bien Paul Lurcel, hein, je ne me trompe pas.
Oui, j'ai tout de suite reconnu.
Voilà. C'est que, sans doute, que... C'est ça qui permet de conserver, pas au silence, mais au secret, la langue
oui,
maternelle.
Absolument.
La langue que tu reconnais facilement, hein, au bout d'un certain temps. Comme par analogie, comme ce que tu dis de l'écriture après séance.
Oui. Ah oui.
Tu vois ?
Oui.
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 Ça semble être le même processus.
Comme si, au fond, dans la séance, et je crois que ça revient aussi sur l'autre aspect qui m'avait beaucoup intéressé aussi de votre réponse, c'est rendre visible pour l'analyste. J'ai pensé quelque chose qui se rapproche finalement, ça suivait ma question sur la langue maternelle, la langue éternelle et la langue de l'écriture. Et cette langue de l'écriture, ce qu'elle rend visible à l'analyste, c'est au fond ce qui peut être traduit dans l'écriture, dans cette autre langue, ce qui n'est pas du sensoriel, enfin ce qui est du sensoriel qui est dans la séance et qui se traduit dans les mots. Quand tu dis « j'ai dit ça, mais au fond c'est pas juste ».
Oui.
Et tu nous prends l'exemple sur l'étymologie même de l'artisanat.
Oui.
Après, dans le test que tu nous donnes. Et j'ai été sensible à ce passage entre la séance de l'analyse qui effectivement est orale et la séance d'écriture, pour revenir au texte d'autoprésentation de Freud, ou même tous ces textes de Freud, où le passage par l'écriture essaye de rendre compte, et que tu essayes, toi, et que tu utilises, de rendre compte en mots, en pensée, d'une sensorialité qui devait infiltrer, qui doivent infiltrer les paroles de la séance, les mots de la séance. Enfin, je pensais ça comme ça, oui. Entre cette sensorialité orale et ce passage à l'écriture qui fait naître une pensée, et peut-être que c'est le trauma, et peut-être que c'est...
La créativité.
C'est la créativité qui permet un passage entre l'oral et l'écrit.
J'ai fait une association parce que votre répétition des « pas ma place, c'est pas ma place, c'est pas ma place », je ne sais pas s'il y a juste une relation avec toute cette discussion-là, la école, la place de l'école. Il c'est un reste de la place de exilé qui s'y transmettent d'une façon transgénérationnelle.
Ah ben oui, évidemment, oui, ça vient par...
Oui. Et c'est pour ça qu'il n'a pas de place, n'a pas de place, n'a pas de place. Là, s'y transmettent.
Oui. Mais justement, ce qui se produit, c'est que quand on arrive à traduire cette non-place de l'exilé, ou de la patride, selon des histoires, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'exilés et d'apatrides chez les autres aussi. Mais c'est une autre forme d'exil aussi.
L'exil en soi,
madame. Oui, moi je trouve que le travail analytique... le travail analytique apprend à aimer, quoi. À aimer le monde, l'autre, celui qui est aimable, évidemment. Hein.
Soi, en premier lieu.
Oui.
Soi-même en premier lieu.
Ah oui, ben ça c'est plus difficile. Hein, ma femme. Est-ce que je peux lire ce passage que j'aime beaucoup sur l'arménienne à l'école?
Je t'en prie.
Ah oui, parce que j'aime bien. Vous allez voir, parce que c'est très étrange, parce que, si vous voulez, dans ce passage que je vais vous lire, ce texte a été vécu en 1952. Je l'ai vécu, j'avais 18 ans. Je l'ai écrit en 77, dans Une arménienne à l'école. Et il est toujours très présent en moi, et je trouve que la scène qui s'est passée à la BNF est le pendant, la réponse, donc de 1952 à 2022, ça fait 50 ans ou 70 ans, 50 ans. Non, 70 ans, c'est une réponse, 70 ans. 2022 répond à... Alors, vous allez voir. Je pense que ceux qui... parce que ceux qui ont lu... Enfin, de toute façon, si vous ne l'avez pas, vous pouvez le lire, vous pouvez l'écouter chez vous. Je trouve que la scène à la BNF est une réponse à cette scène qui a eu lieu en 1952. Pourtant j'avais marqué que c'était à la page 40 qu'il fallait que je trouve ça, mais bon, alors attendez. Et là oui, non, mais parce que je me trompe. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi? Ah voilà. Alors donc, j'ai écrit ça donc en 1977. Je crois que c'est une scène princeps. Je me trouvais comme dans un cauchemar insolite, voire impudique, dans un lycée de classe préparatoire, au bureau de la surveillante générale, entre celle-ci et mon père. Jusque-là, je m'étais arrangée au cours de ma scolarité pour esquiver cette insoutenable confrontation entre l'école laïque française et ce rescapé du désert dont je portais le nom, l'unique grand homme pour moi, mon père. Ma mère n'assumait guère ses fonctions de représentation, où il ne restait plus rien à représenter. Or, le règlement était ici impératif. Mon admission en classe de lettres supérieures dépendait de cette épreuve, au cours de laquelle je devenais nécessairement l'agent d'un triple désaveu. Il n'y avait d'ailleurs d'épreuve que pour moi. Pour la surveillante générale, cet homme parlant mal le français, dont l'air imposant et déplacé, les manières raides ignoraient les usages, cet intrus était nullement une recommandation rassurante pour une future élève des classes de concours. Je ne crois pas qu'elle fût ce qu'on appelle raciste, mais la tradition et le règlement intérieur n'avait pas prévu ce genre de candidature. Pour mon père, cet employé de bureau rabougri, qui causait pour perdre son temps de choses incompréhensibles en ce bas monde, le niveau en version latine, la motivation de la candidate, le nombre de mentions obtenues, cette femme sans saveur n'éveillait rien en lui. Il n'était pas là. Pour moi, mon destin était assujetti à son pouvoir, à elle, au verdict qu'elle allait prononcer. Devant elle, je devais me désolidariser de la conduite cavalière de mon père, et dans le regard de celui-ci, je lisais le dédain de me voir m'égarer dans des voies futiles et répudier les mères illettrées, mais sages et avisé de son orient lumineux. Quant à moi, frappé de mutisme, je ne pouvais exprimer à cette femme combien, malgré mon incapacité à habiter ce carrefour sans rencontre, j'aimais les auteurs, ses pères à elle, plus qu'elle peut-être, que j'étais pleine de gratitude pour ses semblables qui m'avaient appris à les lire et qui m'en avaient nourri en temps de famine. Je voulais vous lire ce passage parce qu'il montre bien le clivage qui fait que on n'a aucune place et que c'est intenable entre l'école et la maison. Et c'est en écrivant ma dernière séance, j'ai une séance une fois tous les deux mois, là, c'est une tranche comme on dit. Et en recopiant la séance qui s'est passée, je me suis dit, mais voilà, ce qui s'est passé à la BN, c'est une réponse à cette scène-là. Et ça m'est arrivé par association. Je pense que ce n'est pas pendant la séance d'analyse que je fais ce lien. Parce que là, c'est une recherche un peu comme un analyste cherche. Je me dis parfois que je suis l'analyste de ma personne à ce moment-là. Hein? À ce moment-là.
Un système associatif, l'enquête.
L'enquête, oui. Oui, c'est l'enquête. Oui, c'est l'enquête. L'analyste, c'est l'enquête. Et ça se fait avec des mots. Et l'histoire du tiers, parce que finalement, il n'y a aucun tiers, c'est intenable. Et d'ailleurs, d'un livre à l'autre, au début, je trouve que c'est une... J'aime pas beaucoup cette surjet. Et après, je me dis, mais pas du tout. Dans un autre livre, je me dis, mais c'est bien, elle accomplit son devoir. Elle ne veut pas comprendre ce que c'est, toutes ces histoires. Elle accomplit son devoir. Il faut avoir deux mentions. Elle a deux mentions assez bien. Donc, elle peut rentrer. Et la démocratie, c'est ça. C'est-à-dire, c'est pour ça que c'est quand même une écriture un peu politique. La démocratie, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a deux mondes incompatibles, mais s'il y a des règlements, on peut créer de la vie. Et je trouve que... Je me suis dit, voilà, elle accomplit le règlement, elle fait son métier, c'est parfait.
Mais il y a du tiers, Janine.
Hein?
Il y a du tiers. Il y a du tiers dans cette scène.
Eh ben le tiers, c'est le règlement.
Le tiers, c'est le règlement, mais le tiers, c'est ta capacité à faire exister ton avenir. Non, mais...
Oui, c'est-à-dire que je me dis, il faut que j'aille à l'école, il faut que je fasse des études.
Oui, mais si je peux me permettre, c'est-à-dire, cette ressource-là,
oui.
Elle devient de ton père, c'est ce que tu nous expliquais tout à l'heure.
Ah oui.
Donc, il y a bien du tiers, autrement dit, avec ton père, malgré ton père, au-delà de ton père, je ne sais pas comment il faut dire.
Oui, parce qu'il est quand même venu.
Ben, il est là. Mais surtout, il y a quelque chose que tu fais exister. Tu fais exister ton avenir.
Mmh. Voilà. J'étais pas une très bonne élève. Hein. Mais enfin, mais peu importe, j'ai jamais été une très bonne élève. Oui, moi je trouve que c'est une scène fondamentale. Oui. Oui, mais moi je dis quand même. C'est possible parce qu'il y a de l'école. Moi, je peux vous dire, alors c'est hors de sujet, mais la destruction de l'école actuellement, c'est pour moi le grand malheur de ma vie. S'il n'y a pas d'école, il peut y avoir que de la guerre. Et pour moi, dans beaucoup d'endroits, j'ai écrit le travail de l'école prépare au travail analytique. Et le travail analytique est en rapport avec le travail à l'école. Vous avez forcément des analysants qui aimaient l'école.
Oh ben comme vous, ce qui est arrivé, comme vous.
Comment ?
Comme vous, enfin, c'est un même qui trouvait à l'école enfin un moyen de penser.
Oui.
Les mots.
Oui, les mots.
Les mots.
Ah oui, moi j'avoue.
Qui ramène à la raison.
Été bien à l'école quand même.
Oui. Comment?
C'est souvent ne pas avoir été bien à l'école quand nous entendons. Mm.
Ah oui, c'est vrai aussi.
Ah bah oui.
Parce oui, que mais alors parce que.
C'est le lieu du labeur, c'est le lieu de l'échec, c'est le lieu. Mais ça n'a pas du tout été votre expérience, au contraire.
Ben non, j'étais pas bonne élève, mais c'était tellement mieux.
Ben oui, c'était différent de la maison.
Oui.
Différent, mieux.
Vous voulez dire que finalement l'école est un lieu où se prépare d'une façon ou d'une autre le travail analytique.
C'est un compromis à peu près acceptable.
Soit parce qu'on se sentait bien à l'école, soit parce qu'on s'y sentait.
Parce qu'on se sentait affreusement mal.
Mais c'est vrai, quand même, l'école, c'est un lieu de souffrance, de violence. Enfin, c'est le premier endroit où les gens apprennent la violence. Enfin, il y a pire. Non, c'est pas forcément le premier endroit, mais disons.
Si, moi je suis d'accord, oui, parce que c'est aussi la fratrie, la rivalité.
Voilà, c'est là où quelque chose de on est obligé. C'est là où les gens, prenant cette formule qui m'est venue, sont obligés. Pour la première fois, de penser la violence. Voilà. Donc c'est vrai que c'est dans ce sens-là, c'est pour ça que je disais en rigolant, c'est un compromis entre vous deux, là, parce qu'effectivement, ça prépare à l'analyse, mais pas dans le sens où tu le dis toi.
Oui, mais on n'est pas bien à l'école parce que, par exemple, il y a du racisme, il y a de l'ostracisme, oui. C'est ça.
Aussi.
Oui.
Il y a sur ces centres de compétition. Le premier.
À la compétition, oui. Oui.
Mais, enfin, ça peut exister dans la famille aussi.
Après, ce que vous dites, c'est l'extériorité d'un non-lieu, en fait. Le lieu de la famille et de l'énigme de ce qui s'était passé, c'est un non-lieu. Moi, j'entends l'extériorité, ça me parle, en tout cas, d'un lieu où quelque chose peut advenir. On ne sait pas quoi encore, parce que quand on va apprendre, on ne sait pas. Et ce qui m'a touchée aussi, je ne sais pas comment l'entendre, vous avez parlé de l'appui sur la culture, et je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut... Je vais vous dire ce que j'ai entendu, vous allez me dire si c'est ça que vous vouliez dire. Je pensais à la culture aussi sur ces histoires que vous repreniez de Corneille, mais je l'entends alors comme une histoire sur laquelle on peut s'appuyer quand on n'a pas d'histoire, mais s'appuyer pas pour juste écouter, mais pour infiltrer tout le registre du non-lieu, celui de la du diffus, du comment dire, de la non-parole, qui peut s'infiltrer dans les personnages ou dans l'histoire,
oui.
Et qui tout d'un coup prend une texture,
Oui, par exemple, entre la grand-mère et l'Andromaque.
Voilà, exactement, parce qu'en fait, quand il n'y a pas d'histoire, l'histoire qu'on découvre à l'école, en fait. Elle est le lieu où on peut écrire son histoire, en fait. On peut s'appuyer sur l'histoire qui nous précède, y compris les mythes, ou cette écriture
absolument.
Qui ne bouge pas, en fait. Qui
absolument.
Qui s'actualise de nouveau,
ah, oui.
Dans lequel on retrouve une actualité.
Ah oui.
Alors, je ne sais pas si c'est ça que vous disiez.
Si.
Et j'ai été touchée par ça. J'ai trouvé ça très puissant, parce qu'il y a une écriture à la fois d'une... Alors ça me fait penser aussi à Walter Benjamin, hein, le messianisme comme ça, qui se joue dans l'écriture,
ouais.
En s'appuyant sur l'écriture d'un autre temps, qui vient réaliser quelque chose pour soi et peut-être pour l'écriture déjà écrite, hein, qui vient finir le texte écrit, mais qui vient finir aussi quelque chose de l'histoire en soi.
Oui.
C'est pas très clair peut-être.
Mais il y a le passage sur les concepts d'histoire où il dit que... il y a des événements qui portent en germe tout ce qui vient après. Et ça m'avait beaucoup parlé. C'est aussi quelque chose, une pensée qui m'était venue après en recopiant une séance d'analyse. C'est-à-dire que au moment où j'ai beaucoup hésité pour faire publier le texte de mon père au temps moderne, où j'avais très peur, c'est très angoissant de porter comme ça quelque chose d'important. Et je me suis rappelée, à propos justement du brouillon perdu, que quand j'étais petite, Je ne comprenais pas le turc, mais je devais comprendre des choses, parce que quand il parlait à ses amis de la prise de la banque ottomane qui a eu lieu en 1896 pour alerter les puissances occidentales sur les crimes du sultan Abdul Hamid, j'ai perçu, c'est drôle comment ça vient dans la mémoire ces choses-là, et ça, c'est venu au moment où j'écrivais la séance d'après. Je me suis rendu compte que, en tant qu'enfant, j'avais vu que mon père était content de cet acte révolutionnaire. Et c'est ça qui m'a décidé à publier, à envoyer le texte au temps moderne, parce que, c'est-à-dire donc que c'est cet affect que j'avais perçu enfant, qui est resté en moi et qui est sorti, qui m'a amené à donner le texte au temps moderne, et elle l'a accepté. Oui, je sais pas, on parle de plusieurs choses, mais ça fait travailler autrement la mémoire, l'écriture après. Ça fait travailler la mémoire autrement. Parce que dans le monde du transfert, quand l'analyste est là, on est dans un monde très, très, très intériorisé. On est, enfin, ça dépend du mode de transfert qu'on fait, évidemment. Mais on est très, très à l'intérieur de soi. Tandis, et donc, on peut pas. Il y a des associations qu'on ne peut faire qu'en utilisant les mots de l'intellect, c'est-à-dire les mots du préconscient, je dirais. On travaille plus le préconscient, alors que dans l'analyse, c'est plutôt le conscient dans la cure, c'est plutôt l'inconscient. Et dans cette écriture après, c'est le préconscient qu'on travaille. J'avais pensé ça aussi. Oui, les personnages, oui, puis les fables de La Fontaine. moi, j'adorais l'école.
Est-ce que vous pourriez revenir sur la question de l'empêchement?
Oui.
La paternité,
oui,
empêchée, la fonction paternelle empêchée, et pourtant présent, c'est pas une radicale absence.
Oui.
Alors, comment vous le pensez, et cet empêchement, et puis quels souvenirs vous avez éventuellement, ou expérience, de l'épreuve que ça représente pour l'enfant, de deviner que du côté de l'adulte, c'est de l'empêchement.
Oui.
Hein, vous, qui vous amène à propos du maternel, d'évoquer la tendresse du matériau.
Oui,
j'étais
oui.
Très attentif à.
Ben ça, c'est. Je peux vous dire aussi que c'est l'analyse qui fait comprendre tout ça. Hein? Parce qu'au début, on se sent absent de tout. Il n'y a pas de papa, il n'y a pas de maman, la mère, elle n'est pas gentille, le papa. Mais c'est au travail de l'analyse qu'on. Oui. Alors, je dirais justement que dans cette scène, on voit bien l'empêchement du père. C'est pour que le père puisse se poser, puisse assumer sa paternité devant cette institution, il faut qu'il ait lui-même une institution derrière lui. Or, si c'est un apatride, que son institution n'est pas reconnue, il ne peut être que dans l'empêchement. Mais en cela, je dirais qu'il occupe une position de dignité. Vous voyez ? C'est-à-dire que ça aussi, ça fait partie du travail analytique. C'est qu'en tant qu'empêché, il ressent de la dignité parce qu'il n'est pas fanfaron. Il ne remplace pas une paternité impossible par une paternité fanfaronnante. Il est en retrait. Et je crois que cette souffrance, je me suis demandé après coup, toujours dans le travail que je fais en écrivant, si ce malaise fondamental que je ressentais entre ces deux personnages, si ça n'était pas ce que je sentais de cet empêchement sans savoir de quoi il s'agissait. L'empêchement, c'est. On ne peut pas entrer dans. C'est un empêchement dans les mots. Est-ce que j'ai répondu à. Mais on souffre, oui, on souffre. On souffre. Je me demande si ce n'est pas pour ça qu'on va en analyse. Pour essayer d'analyser la souffrance que le parent ne pouvait pas ressentir, mais qui était sa souffrance à lui. On ressent, on apporte une souffrance qui n'a pas pu être assumée, ou elle était inassumable.
Ça, c'est la configuration. C'est une configuration.
Oui, oui, de l'empêchement, qui n'est pas une carence.
Oui, qui n'est pas une carence.
Qui n'est pas une carence.
De la même façon que le clivage dont vous parlez beaucoup n'est pas pleinement le clivage où on peut l'entendre au sens analytique du terme ou au sens ferengien du terme.
Oui, dites-moi en quoi c'est différent, oui.
Dans les exemples que vous donnez, il y a une solution. Quelque chose peut être négocié.
Oui, oui.
Je pense que le clivage, plus raide, plus,
ah oui.
Une autre approche du trauma, le clivage, ça supposait de penser que le recours à l'écriture n'est pas dans l'après-coup de la séance, n'est pas seulement une reprise et une continuation, c'est pas... Je pense plutôt comme un supplément, c'est-à-dire comme l'accès à une autre dimension, à un autre espace de résonance qui n'est pas celui de résonance qu'autorise la dynamique de transfert. La dynamique de transfert est nécessaire pour que s'ouvre dans la solitude du rapport à l'écriture un autre espace de résonance et l'accès à un autre matériau qui probablement a à voir avec la mémoire sensorielle, la mémoire du matériau sensoriel.
Oui.
Repenser à une scène, c'est pas seulement on va écrire une scène, on y repense, et dans ce travail de pensée-là affleurent plein de choses qui ne passeront pas dans le récit de la scène.
Non, c'est pas le récit.
Oui, on est d'accord.
Oui, oui, c'est pas le récit. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Pour les analystes, le clivage, c'est plus en rapport avec quelque chose de psychotique.
Non, parce qu'il y a plusieurs types de clivage quand même. Il y a aussi un clivage qui n'est pas pathologique. Par exemple, on n'est pas tous les jours en train de penser qu'on va mourir un jour. Non mais je prends cet exemple parce que c'est Freud, hein. C'est Freud qui en parle comme ça. Mais c'est tellement vérifiable chaque jour justement. Donc, mais ça va dans ton sens en fait. C'est ce type de clivage au service de la vie dont on parle là.
Parce que dans la scène que vous évoquez, quelle dignité du côté du silence de votre père, quelle présence.
Oui, oui, il était là, oui.
L'empêchement ignoré, c'est celui du témoin porteur du règlement.
Oui. Dictée. Oui, la pauvre femme, oui. Enfin, elle a fait son travail.
Néanmoins, c'est une scène d'écriture.
C'est une scène ?
C'est une scène d'écriture.
Je l'ai écrite.
Voilà, on n'est pas directement là.
Donc
ça veut dire qu'il y a tout un travail psychique de l'auteur, Janiel Tudor, ne serait-ce que pour montrer la scène, la mettre en perspective.
Et de nous la faire éprouver.
Et du coup, par exemple, pour rejoindre ce que tu disais, de nous suggérer que cette adolescente a un rapport très, très fort à son père, très puissant.
Oui, c'est ce que tu...
Tu disais dignité, mais tu le dis, toi, là.
Il n'est pas empêché, il est retenu, c'est différent.
Non, il est empêché parce qu'objectivement, c'est un apatride. Sa culture a été détruite, son monde a été détruit.
Il est déplacé, tu dirais.
Déplacé.
C'est ça que tu dis, la dignité du déplacé.
Est-ce que le mot empêcher dirait quelque chose à arrêter, en fait? Comment se sent...
Comment je...
Dans le mot empêcher, ce serait quelque chose d'arrêter, en fait, en suspens.
Ah oui, ah oui. Oui, c'est qu'il y a la possibilité, mais c'est empêché.
Ce serait un peu ça. Que, oui. C'est l'image que j'ai un peu, mais je ne sais pas si c'est ça que vous mettez...
C'est le mot qui m'est arrivé. C'est le mot qui m'est venu. Et j'ai fait aussi un autre... j'ai oublié, mais... Oui, oui, mais c'est un moment très fécond, je pense, ce moment de l'écriture après. Ah oui, justement, par exemple, je me suis dit, dans son journal de déportation, il arrive à survivre le plus possible, il a 14 ans, son père a été assassiné, le jeune frère a été enlevé, mais il s'occupe de sa mère. Et à un moment donné, ils ont tellement faim que c'est pas possible, et sa mère le donne aux Bédouins pour qu'ils vivent. Et à propos de l'écriture, justement, je me suis dit, mais pourquoi en 1977 j'ai écrit? J'étais pleine de gratitude vis-à-vis de la surveillante générale. J'étais pleine de gratitude pour ses semblables qui m'avaient appris à lire, à les lire, à lire ses pères, et qui m'en avaient nourri en temps de famine. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai écrit ça? Et à ce moment-là, j'ai fait l'association. Sa mère le donne aux Bédouins pour qu'il soit nourri en temps de famine. Et à ce moment-là, je me suis dit, il me donne la culture de l'autre pour qu'elle me nourrisse, puisque lui ne peut pas me nourrir avec sa culture. Et ça, ça m'est venu au moment où j'écrivais. Et je pense que c'était ça. C'est-à-dire qu'il n'avait pas énormément de confiance avec tout ça, mais au moins, il y avait de la nourriture, là.
Je suis intriguée aussi, c'est tout ça, c'est formidable, parce que vous avez évoqué, parce que ça fait beaucoup associer. Oui, donc je suis intriguée par le fait que tout à l'heure vous avez dit, mais je n'aime pas écrire.
Ah non, j'ai horreur de ça, oui, j'aime pas.
Vous pouvez en dire plus sur ce fait? Parce que ce que j'entendais, c'était, il fallait que je dise.
Oui, il faut que je dise.
Que je dise,
mais
je n'aime pas écrire.
Eh bien, je pense, alors là, parce que j'aime bien aller à l'école pour apprendre, pour rêver, mais j'aime pas faire des rédactions. J'aime bien être nourrie par l'école, mais moi, vraiment, oui, je crois que c'est une position infantile, quoi. Je préfère être nourrie par l'école, par la maîtresse, par les profs, par les explications de texte, par ce que vous me dites, par exemple. C'est pour ça que, après les invitations de Jean-François, je dis toujours oui, parce que... Excusez-moi.
Vous avez de l'eau, hein,
ben oui. Non, ça va. C'est...
Prends un peu d'eau, non?
Je dis toujours oui parce que c'est nourrissant, tout ce que vous me dites là. Quel plaisir! Parce que ça vient d'un autre bord. C'est des psychanalystes, je n'en suis pas. Vous avez des expériences personnelles, professionnelles et personnelles totalement différentes. Et quel dialogue, où est-ce qu'on trouve des dialogues pareils dans la vie? C'est très rare. Donc j'aime bien aller à l'école pour recevoir. Mais j'ai pas eu envie de faire ça. Hein. Qu'est-ce que j'ai pas eu envie?
C'est-à-dire qu'il y a de l'autre. Il y a de l'autre. Il y a de la vérité. Tandis qu'effectivement, dans l'écriture, on est quand même...
Voilà. Et quand il y a de l'autre, je suis à l'aise. Oui. Ben oui, parce que Dans le trauma, il n'y a pas d'autre, quoi.
Et dans la cure, il y a peut-être de l'autre et de l'écriture.
Oui, l'autre est assassin. Dans le trauma, l'autre est assassin. Ben oui, c'est bien. Vous allez avoir toutes les séances comme ça. Moi, c'est trop loin, je ne peux pas venir ici. Là. Je tombe. Mais c'est intéressant. Je peux faire la réclame. Vous savez, j'ai un côté commerçant. Hein. Enfin, j'apporte toujours des livres.
Je pensais à la remarque que vous avez faite à propos, en insistant sur l'oralité.
Oui.
Ce qu'on dit
là, ah oui, ah oui.
Là, fait beaucoup penser la référence à l'école. On va à la grande école quand on quitte la maternelle. Mmh. Il y a quelque chose de l'ordre du sevrage et de la séparation.
Oui.
Et l'entrée dans le langage, je ne pourrais pas reparler du texte de Freud sur la négation, mais c'est dans la pulsionnalité orale, primordiale, que les choses se jouent. Mmh. La parole, elle est tailleur. Il faut quand même pouvoir se séparer du sein.
Ah oui!
Et c'est une autre nourriture, bien évidemment, qui se trouvera.
Ah oui, 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 oui. Ah oui, là, ouf, ça va mieux.
Ton père était couturier ?
Comment ?
Ton père était tailleur ?
Mon père était tailleur, oui, c'est les mêmes.
Je me faisais. Je jouais avec le mot. Il était tailleur.
Oui, oui, oui,
c'est bon, c'est bien fait. Et juste, c'est une manière. Tu parlais de séparation, il est l'heure de nous séparer. J'en profite pour jouer mon rôle.
Merci.
Bon, merci à vous et surtout merci à Jean-Louis.
Ah oui, c'était bien. Comment il s'appelle ça, monsieur?
C'est une grande.
Ah oui.